RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi que vous téléchargez sur rmc.fr avec la Dream Team cette semaine composée de Stephen Brun, Fred Weiss et Arnaud Valadon. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Salut tout le monde.
Arnaud qui est en direct pour ce podcast au moment où nous enregistrons du Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois, car il a des stars NBA sous les yeux, puisque vous le savez, jeudi c'est Cleveland contre Brooklyn à Paris. C'est donc un numéro spécial NBA à Paris. Tout se passe bien Arnaud?
Tout se passe bien, les Cavs viennent de finir leur entraînement assez léger, ils sont allés voir la Tour Eiffel, en tout cas ils sont allés au pied de la Tour Eiffel, ils font un peu de visite, un peu de touristes parce que ça reste une semaine spéciale même si c'est un match de saison régulière, donc les Cavs ont eu Donovan Mitchell, Caris LeVert notamment, JB Bickerstaff le coach, Jarrett Allen, et les Nets vont suivre dans quelques instants parce que Marcel Cerdan c'est toujours là où les équipes s'entraînent, ça rappelle des souvenirs puisque c'était aussi la salle de Wembanyama l'année dernière.
Ça doit faire tout drôle quand même au Star de la NBA de s'entraîner à Marcel Cerdan, ils l'ont pimpé un peu à la façon NBA ou rien du tout Arnaud?
Absolument pas, il y a juste quelques kakémonos tu sais avec les sponsors pour faire les interviews, mais sinon c'est assez classique. Après tu sais les salles sont pas non plus d'entraînement NBA, c'est pas non plus totalement des bijoux partout.
NBA, c'est deux paniers, un parquet, sauf qu'il y a plusieurs terrains.
Là ils s'entraînent dans une salle du championnat de France.
Mais alors
bah,
il
voit
quand même plus de tribunes et de places dans une salle du championnat de France que dans leur salle d'entraînement.
Ouais, je comprends ce qu'il veut dire.
Mais si tu veux, c'est une salle du championnat d'élite.
Pour eux, c'est une salle d'entraînement et pour nous, c'est notre salle officielle.
Ah, oui, c'est pas vraiment une salle d'un club professionnel, hein, Marcel Cerdan,
oui,
actuellement.
Bon, ils avaient Wembanyama l'an dernier quand même.
Oui, ils ont plus souvent joué à l'extérieur qu'à Roland-Garros ou à Bercy que dans leur salle.
Alors, nous allons parler de ce Cleveland-Brooklyn et puis de Wembanyama, bien sûr. Parce que peut-être que l'an prochain, ce sera lui avec les Spurs pour ce match délocalisé à Paris. Est-ce qu'il viendra en tant que joueur dominant dans la Ligue? On va se projeter un peu et puis bien sûr, faire le point sur sa progression à Victor Wembanyama. Et dans la partie historique, alors là, je suis très content parce que vous allez me faire découvrir une légende de la NBA. Moi, je ne connais que le nom de Julius Erving, qui a démarré aux Nets dans une autre époque, hein, puisque c'était à l'ABA et pas la NBA, la Ligue dissidente. Toute une histoire que Fred va se faire un plaisir de me raconter.
Exactement. C'était mon rêve de te raconter ça.
Non, c'est vrai, Julius Erving, c'est un nom qu'on connaît, qu'on entend, mais ça remonte à maintenant, il y a 50 ans, quoi.
Ouais, bien sûr.
En gros, c'est ça.
C'est très longtemps, ouais.
Donc ça, c'est la partie historique. Et puis, alors, le quiz, on va rien inventer. Ce sera des questions soit sur les Cavs, soit sur les Nets. Vous connaissez bien vos Cavs et vos Nets?
Pas du tout.
Non, c'est un petit Stephen, j'ai l'impression, ce mardi-là, cette semaine, non?
Ouais, tout à fait.
Il s'est toujours pas remis des fêtes de Noël, le mec, hein.
Des fêtes de Noël.
Oui, petite santé, non?
Si,
il y a eu une gastro, il y a eu un petit Covid, il y a tout eu, quoi.
Il y a tout eu. Il y a tout eu.
Allez, c'est parti.
Il y a eu le retour de Nadal aussi qui m'a fait mal à la tête.
C'est bon, il est reparti.
Oui, il est reparti.
Allez, c'est un Basket Time spécial NBA à Paris.
Bonjour.
Depuis quelques jours, ils n'ont que ces mots à la bouche. Le NBA Paris Game.
This is for Paris. You open your city up to it.
Mitchell has his head up, takes LeVert feet. Allen inside, took the feed from Mitchell.
Dinwiddie pulls it back, takes it in. Left hand for Spencer Dinwiddie.
Mitchell stops, Mitchell fires, and Mitchell hits.
Oh, sent away by Bridges. Bridges, no hesitation. Mikal Bridges, he's on fire.
Le NBA Paris Game, bonsoir à tous.
This is for the fans. We came back for you.
Bonjour,
that's all we already know.
Merci.
Ils se régalent les Américains de dire 2-3 mots de français, d'aller chercher un croissant.
Tu te rappelles cette vidéo virale d'un Américain qui disait croissant, omelette, jambon, tu te rappelles le...
Alors la NBA à Paris, c'est jeudi, les Cavs 7e à l'Est contre les Nets 10e de la conférence Est. Nous sommes, je vous le rappelle, en duplex du Palais des Sports Marcel Cerdan avec Arnaud Valadon à l'entraînement des deux équipes. C'est quoi leur programme d'ailleurs autour de ce match, Arnaud? Parce que du coup, avec les déplacements, ils ne feront qu'un seul match dans la semaine, dans leur calendrier NBA, mais qu'est-ce qu'ils font à Paris?
Alors ils sont arrivés lundi puisque les Cavs ont joué notamment à la mi-journée face aux Spurs de Victor Wembanyama et une victoire qui s'est dessinée dans les derniers instants et ils ont failli faire un comeback les Spurs. Donc on est arrivé lundi avec un petit peu de décalage horaire et tout ça, sous le froid. Beaucoup étaient déjà venus à Paris un petit peu en vacances. Caris Levert qu'on entendra peut-être tout à l'heure, on a dit mais j'étais déjà venu à Nice pour un mariage. Donc c'est pas forcément leur découverte de la France, mais ils sont très contents d'être à Paris. Tu vois, Caris Levert, il a emmené sa maman au restaurant. Donc il profite quand même beaucoup, beaucoup de la vie parisienne. Certes, il y a cette rencontre importante en saison régulière parce que c'est deux équipes qui essayent de bien se placer à la conférence Est avec Cleveland, peut-être un statut un peu plus confirmé eu égard à leur récente performance. Mais on est assez finalement détente et c'est à l'image des précédents matchs NBA à Paris. On rappelle qu'il y avait eu les Hornets et Nicolas Batum contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo en 2020, juste avant les confinements. La NBA était revenue l'année dernière avec les Pistons et Super Killian Hayes. Mm-hmm. Et c'était d'ailleurs, c'est la première fois là qu'il n'y a pas de joueur français aussi bien dans l'équipe des Cavs ou des Nets. Donc c'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'attrait et on leur parle quand même beaucoup de Victor Wembanyama.
Oui, après le match fait ça le comble quand même. Hein.
Oui, bien sûr.
Moi, c'est une meilleure affiche d'ailleurs.
Je pense que c'est la plus belle affiche depuis 2020. Alors, il y avait Giannis Antetokounmpo, mais les Hornets c'était tellement pourri et tellement nul que ça avait déséquilibré l'affiche. Là, c'est deux bonnes équipes. D'ailleurs, j'ai des infos moi sur le planning des deux équipes si ça t'intéresse.
Ah, des infos.
C'est sur la night à mon avis.
Alors night, ouais. Je sais qu'il y a une réservation déjà à l'Arc pour les deux équipes.
Donc
jeudi soir.
Ah non.
Ouais,
peut-être mercredi soir.
Peut-être même avant. Alors, sachant que moi, quand j'avais vu Jordan en boîte de nuit, c'était la veille du match, il y avait les Hornets qui étaient là. Bref.
Ouais, mais Jordan jouait pas.
Non, mais il y avait toute l'équipe des Charlotte, il y avait toute l'équipe d'Hornets qui était là. Sinon, Ben Simmons a envoyé 80K hier dans un magasin Place Vendôme pour acheter un peu de, Marble Kinry. voilà, et okay. Il retourne aujourd'hui dans ce magasin, dans le même magasin. Il y a une privatisation pour les Nets qui est de 18h à 22h pour faire des emplettes.
Ah, si vous voulez avoir des selfies ou des autographes, vous pouvez toujours tenter votre chance.
Tenter devant le magasin, ouais.
Sur les champs. Rue de la Paix,
Place Vendôme.
Place Vendôme, c'est ça.
Place Vendôme.
Voilà. Bon, si jamais vous avez du temps à perdre,
si vous voulez gratter des autographes.
Très bien. C'est un insider maintenant, Stephen.
Oui.
C'est le Vojna de Basket Time.
C'est plus des insides.
C'est plus des insides de gossip. Hein.
Alors, le match, en l'occurrence, peut-être la meilleure affiche de ces matchs NBA à Paris. Maintenant, il y a quand même une équipe qui est censée être bien meilleure. Les Cavs sont censés exister dans cette conférence Est. Les Nets, c'est un peu tristoun quand même. Hein.
Moi, je suis un peu déçu par ces Nets. Moi, je les voyais aller loin. Alors déjà, je pensais que Ben Simmons reviendrait rapidement de sa blessure de dos au dos. Alors apparemment, il achète plein de trucs. C'est pas bon pour son dos, ça. Ça a apporté tant de trucs.
Justement, il achète des sacs pour pouvoir répartir le
poids. Donc,
mieux d'aller chez l'ostéo.
Je m'attendais à ce que Mikal Bridges explose complètement. Alors oui, il sort d'un match à 42 points, mais sur l'ensemble de sa saison, c'est pas aussi folichon que j'imaginais.
T'aimes bien ce joueur ?
Je suis super fan. Énormément fan. Et je pensais qu'il allait exploser. Ça manque un petit peu de peps. Donc les Nets, un peu déçus. Les Cavs, y a deux blessés, hein, Garland et Mobley. Donc forcément, ça affaiblit beaucoup cette équipe. Oui, il y a Donovan Mitchell. Il y a Jarrett Allen qui joue à niveau de All-Star. Très bonne équipe sur le papier. Mais voilà, avec ces deux joueurs en moins, ça complique.
Ça sent le sapin pour Garland.
Finalement, il a retrouvé tout son moral.
C'était pas le Garland de Noël. Hein.
Non, mais alors, excusez-moi, mais
oui, qu'est-ce qui se passe,
les Nets, tu me dis bonne petite équipe, j'attendais mieux, mais il leur manque clairement un franchise player dans cette équipe.
Oui, mais ils ont décidé autour de Jack Vaughn que c'était Mikal Bridges, le franchise player, que ça allait être celui-là, qu'ils avaient estimé qu'il était capable d'être le go-to guy d'une équipe.
D'où mon raison, c'est que moi j'imaginais justement qu'il allait prendre les clés du camion. Alors il y a Cam Thomas qui est plutôt bon et qui l'accompagne bien, mais j'ai l'impression que Mikal Bridges, il peine à franchir ce cap de franchise player.
On rappelle qu'il est arrivé en milieu de saison l'année dernière dans le trade qui a renvoyé Kevin Durant à Phoenix. Et à Phoenix, lui et Cam Johnson étaient des role players qui étaient role players plus autour de Devin Booker. Donc là, Mikal Bridges, il a été propulsé. Alors l'année dernière, il fait une fin de saison monstrueuse.
C'est ça qui m'a
Où il enchaîne les cartons. Et cette année, c'est vrai qu'il, je vais pas dire qu'il confirme pas, parce qu'il fait quand même des belles prestations, mais il manque un peu de régularité autour des 25-30 pions. Il peut passer à travers des rencontres. Maintenant, oui, il leur manque un joueur de niveau supérieur aussi. Ils ont pas mal de bons petits joueurs corrects. Hein. Royce O'Neal, Spencer Dinwiddie, Lonnie Walker, c'est des bons joueurs NBA, mais il leur manque un mec pour faire passer le cap et peut-être même à l'intérieur, puisque Claxton, il a du mal à progresser.
Il est un peu isolé aussi dans la raquette.
Il est tout seul.
Ouais, donc forcément, ça complique. Hein.
Il est tout seul. Maintenant, cette équipe des Cavs, c'est celle que j'ai vraiment envie de voir jeudi soir à l'Accor Arena, parce que alors, tu disais 7e, ils ont le même bilan que le quatrième de la conférence Est, il me semble. C'est une équipe qui, l'année dernière, fait 51 victoires. Mais qui se trouve complet en play-off contre les Knicks. Donovan Mitchell passe totalement au travers.
C'était des enfants.
Evan Mobley a découvert ce que c'était les play-offs. Il a été ridicule contre les Knicks. Donc on les attend un peu plus haut et en progression. Mais c'est sûr que l'absence de Garland, qui est quand même, on rappelle qu'il était All-Star l'année dernière, il me semble, Darius Garland, il y a deux ans. Et Evan Mobley est préjudiciable. Mais ça reste une belle équipe NBA qui défend dur. Jared Allen l'a dit, il a été monstrueux contre les Spurs. Alors monstrueux, il a profité aussi que Victor puisse ne plus jouer que 26 minutes.
29-16 hein, quand même contre...
Mais c'est une bonne équipe de basket qu'on attend éventuellement avec l'avantage du terrain. Ils vont se battre pour la 4ème place pour, en play-off. Hein,
eux, ils ont leur franchise player avec Donovan Mitchell, mais ils n'ont pas que Donovan Mitchell.
Caris Levert aussi, ancien de Brooklyn. Ils ont des très très bons joueurs aussi.
Ils sont beaucoup plus staffés que les Nets. On est d'accord, Arnaud.
La raquette est franchement, quant à Mobley et Jarrett Allen, c'est deux super joueurs. Et Jarrett Allen a fait, pour avoir vu le match... dimanche contre Victor, il a été exceptionnel, présent au rebond, intense, ils sont durs et donc c'est vraiment une équipe très séduisante. C'est dommage de ne pas voir Garland, parce que certes, un petit peu Donovan Mitchell qui prend la lumière en tant que superstar, mais Garland, je pense qu'il est aussi amené à dominer très fort la NBA les années prochaines. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est ce qu'on appelle un clinique, c'est-à-dire quelques joueurs des Cavs et le coach reçoivent des jeunes et vont animer un petit atelier basket.
Ils opèrent les gamins avec le maillot de la NBA.
Finir sa phrase, ils reçoivent des gamins et
donc ils vont animer des petites animations basket. Voilà, c'est aussi ça quand la NBA se déplace, c'est beaucoup d'animations un petit peu dans la ville. Il y a une NBA House, maison de la NBA, qui va ouvrir demain, donc c'est aussi ça, c'est importer un petit peu la culture. Il va y avoir une pizzeria Brooklyn, je crois, dans le 11e arrondissement, donc voilà, c'est un petit peu tout autour.
Opération séduction,
j'en profite pour vous dire.
Il chuchote, Arnaud.
J'ai pas envie de me faire virer.
Le Super Moscato Show sera à la NBA House jeudi avec un invité de marque.
Et il y aura un contre
Joachim Noah.
Et il y aura un contre un Joachim Noah, Vincent Moscato, si vous voulez voir qui c'est qui gagne.
Alors, d'abord ils font des dunks, ensuite ils font une mêlée.
Mais pour revenir sur les Cavs, il y a un garçon qui est arrivé à l'intersaison en provenance du Heat, qui est Max Truss, qui est très fort, je trouve, qui s'est bien intégré.
Oui, hein. Oui, je suis d'accord.
Il fait le bon boulot, ils ont des bons joueurs. Il y a un mec qui tu vois dans la rue, t'as envie de lui dire tiens, abonne-toi.
George Nyang.
Abonne-toi comme j'aime. Abonne-toi comme j'aime avec Benjamin Castaldi. C'est George Nyang, membre des shorts Quintupixel. Mec qui pue le basket aussi, qui met dedans à 3 points.
C'est quoi son nom, Minivan ou
autre chose? Ouais, Minivan. Il est. Il est énorme.
Le mec, c'est un minivan en termes de gabarit.
Il est énorme. Il a un popotin incroyable.
Mais par contre, je te à 3 points ultra fiables. Vrai bon joueur.
Les Cavs, c'est une bonne équipe. Hein. T'as pas l'air convaincu.
Ah, si, les Cavs, c'est une bonne équipe, mais comme je vous le disais, qui déçoit en termes de classement. C'est-à-dire qu'on attend mieux des Cavs. On attend une équipe qui se bat pour les playoffs.
Mais on t'a dit, il manque déjà deux joueurs qui sont super importants. Et finalement, leur nombre de victoires leur permettrait quasiment d'être un peu plus haut. Ça va jouer à très peu de matchs.
Alors après, si on revient au net, il y a quand même un cas.
Pourquoi il rigole?
Bah parce que
Simmons.
Parce que je vais vous parler de Ben Simmons, évidemment, encore blessé. Ce mec-là va passer sa carrière à NBA, à être un boulet pour ses
franchises. Il aura des jolis sacs en croco.
Il sera bien sapé. Voilà, il va rentrer tout beau en Australie, mais non, mais sérieusement.
Non, mais ouais, alors tu te prêches à convertir. Rappelle-toi, en début de saison, on m'avait demandé qui serait le joueur qui aurait le plus progressé. Pour moi, c'était justement Ben Simmons. C'était l'année ou jamais. Il s'était déclaré comme étant en forme en début de saison et tout ça. Ben, force est de constater qu'il a été en force 6 matchs, quoi.
C'est un mystère entre blessures, entre problèmes psychologiques. Parce qu'il
y a une blessure du cerveau.
Je sais pas en fait ce qui s'est passé. Tout est parti à volo après l'élimination des Sixers en play-off, où ils l'ont tout mis sur le dos. Tu te rappelles,
Joel Embiid, très bien, le coach, Joel Embiid,
ils l'ont tout mis sur le dos. Et depuis là, ils l'ont détruit en fait. Ils ont détruit son corps, ils ont détruit sa tête. Il ne sait plus jouer au basket. Alors, rappelez-vous ses premières années à Philly.
Ah non, mais c'était un joueur incroyable.
C'était monsieur triple-double. Hein.
Mais tu connais cette expression, on en a plein le dos. Et en fait, réellement, souvent, quand tu as ce genre de problème dans la tête,
c'est le dos qui prend.
C'est le dos qui prend, ouais.
Tu connais ça?
Oui, bah oui, moi j'ai eu une hernie discale quand j'ai eu Scariolo qui est arrivé à Malaga. ça s'est tellement mal passé que j'ai eu une hernie discale.
Et hop, comme il est parti et t'as rejoué au basket. Et
voilà. Quand Arnaud Valadon a divorcé, hop, tout de suite, un lombaire qui a pété.
Ah bah oui, c'est le poids des années aussi. Hein. Non, mais bon, alors, tu sais, Ben Simmons, il est pas très bon.
Mais toi, Steve, que t'es pas un problème physique, parce que je te rappelle qu'il y a toute l'équipe des Nets qui est au magasin de ta femme quand même aujourd'hui.
Il y a une petite douleur qui arrive, une sciatique.
Ah, tu te grattes le dos, c'est pas bon. Arnaud, je t'ai coupé, excuse-moi.
Ben Simmons à côté de lui.
Non, mais c'est vrai que non, il est pas encore arrivé. Mais ouais. Bon, pas tarder, c'est encore les Cavs. Je pensais l'avoir aperçu les Nets. Après, franchement, après s'être débarrassé entre guillemets tradé les Harden, Irving, Durant, est aujourd'hui être un contender pour les play-in, c'est quand même pas mal. Il y a eu une chute certes, mais pas non plus une chute vertigineuse. Donc, franchement, dans le processus de reconstruction, puis on sent aussi que c'est peut-être une franchise un peu plus apaisée parce que qu'est-ce qu'on en a eu des dramas, notamment sur la fin de ce Big Three qui malheureusement on n'aura jamais vu, ou alors si Kevin Durant faisait une ou deux pointures de moins, mais c'est franchement encourageant. Après, c'est un projet qui a du mal parce que c'est aussi dans l'ombre des New York Knicks. C'est à Brooklyn, certes, c'est pas loin, mais c'est une équipe qui a du mal aussi à fédérer un public, à créer quelque chose. Ils se sont recentrés un peu sur une identité 100% Brooklyn. J'ai pu avoir la chance en vacances en mars dernier de voir déjà un Brooklyn Cleveland.
Donc on parle de nos vacances là.
J'ai vu cette équipe et un peu l'atmosphère autour. Et c'est une équipe qui a du mal à remplir sa salle, susciter le même engouement, quoi. C'est pas la même salle, elle est en plein milieu de Brooklyn, c'est une super salle d'ailleurs. Avec un centre d'entraînement avec vue sur Manhattan, un truc incroyable. Le New York Liberty et Marine Johannes jouaient dans cette salle et s'entraînaient dans cette salle, mais voilà, c'est un projet qui a aussi du mal à fédérer autour de lui, malgré un petit peu la réorientation, parce qu'il y en a eu des passages des Nets, hein. Souvenez-vous quand Prokhorov arrive avec les Deron Williams, avec les Kevin Garnett, Paul Pierce vieillissant, tout ça.
Et c'est une franchise qui certes souffre de la comparaison avec New York et les Knicks, mais c'est une franchise qui a une hype parce que ambiance hip-hop, parce que Jay-Z qui est à l'intérieur de la franchise, parce que là ils viennent à Paris, ils font une spéciale Biggie Small, Notorious Big, qui est de Brooklyn d'ailleurs.
Non, il va falloir gagner.
Mais c'est une franchise où il y a quelque chose quand même.
Il y a quelque chose, je suis d'accord, sauf que c'est pas suffisant. Et si tu gagnes pas, c'est pas suffisant.
Et pour revenir sur Ben Simmons, c'est 38 millions de dollars cette année et l'année prochaine 40 millions la saison.
Et pour l'instant, il est à 6
mois. Et après, fin de contrat.
Et après, terminé.
Ouais.
Qu'il a mis de côté.
Pour finir sur ce Cavs Nets, est-ce qu'on peut quand même penser que les Cavs soient un prétendant au titre rapidement ? Si quelque chose se passe, s'ils font un bon move, si des joueurs progressent ? Non, vous avez l'air totalement sceptique.
C'est pas ça, c'est que moi je vois Boston, Philly bien au-dessus et les Bucks au-dessus.
Bien au-dessus.
Il y a trois équipes.
Qui sont... pas juste au-dessus, non. Bien au-dessus.
Oui, moi je vois pas sur une série où il faut gagner 4 matchs, Cleveland bat soit Philly, soit Boston, soit les Bucks.
Alors on passe à la suite, ce spécial NBA.
Peut-être que Fred pense à l'inverse.
Non, mais je pense même avis, c'est pour ça que.
Les Cavs, oui, on a l'impression que c'est une belle équipe, il y a un peu de hype aussi, il y a des bons joueurs.
Il manque un petit truc.
Il manque un truc, quoi.
Et Arnaud ?
Ils ont Donovan Mitchell déjà.
Moi j'attends de voir 2-3 ans parce qu'effectivement pour l'instant c'est bouché, Stephen l'a dit. Alors s'ils arrivent à garder cette ossature, mais c'est compliqué de se projeter d'ici 2-3 ans, pourquoi pas, mais là il y a trop de monde, les Bucks, les Celtics, franchement là c'est le périph' bouché, hein, la conférence Est.
Et au final, Pierrot, j'ai une question à te poser, ça aurait pu faire un bon débat. Qui est le gagnant d'avoir quitté Utah ? C'est pas très français ce que je te dis.
Rudy ou
Donovan Mitchell ? Qui est le plus heureux ? Rudy Gobert ou qui a gagné en fait ?
Je pense que les deux sont contents en fait.
Les deux sont contents.
Ils ont pu supporter.
Non mais peut-être que Rudy, c'est une franchise qui a plus d'avenir.
Il y a un an, tu disais Minnesota. Donovan, aujourd'hui tu dis les deux.
Oui, tu dis les deux maintenant. Oui.
Parce qu'ils sont jeunes, non ? Quand même, Minnesota, à part Rudy.
Mais ils ont quand même quasiment fait un one-shot avec Rudy et Karl Anthony Towns en même temps.
Ils ont fait un all-in quasiment.
Sur deux ans,
pour Rudy.
Alors en tout cas, on continue ce spécial NBA à Paris.
Elle n'était pas très claire, ma question.
Elle était mal formulée. C'est une bonne question, mais pas très bien formulée. Nous, on va parler peut-être du match de l'année prochaine, en tout cas de Wembanyama.
A one-handed three by Victor off the backboard.
You know how hard that is to do?
It's off one leg.
Yeah.
Wembanyama. Oh, goes back and puts it down.
Are you kidding me?
Oh, it's knocked away by Wembanyama. Knocked away by Wembanyama.
Off Wembanyama goes right by Durant.
Alors donc l'an prochain, l'ambition de la NBA est de débarquer avec les Spurs de Wembanyama. C'est pas fait, hein, c'est pas gagné parce que c'est plus compliqué d'amener des franchises de l'Ouest que des franchises de l'Est. Même
la
si,
en 2003, je crois.
Même si San Antonio n'est pas la plus à l'ouest des franchises de l'Ouest.
Il y a 7 heures de décalage de San Antonio et Cleveland, il y a 6 heures. Okay.
Donc ça doit être jouable. Alors c'est l'occasion de faire un débat sur Wembanyama parce qu'il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière. Sur son évolution, où en est-il et surtout où en sera-t-il? Est-ce qu'on peut imaginer dans un an un Wembanyama débarquer pour un match, bien sûr, à Paris en tant que joueur dominant au niveau des tout meilleurs? C'est la question que je vous pose. Tu t'as l'air très 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 sceptique, Fred, mais je trouve que son évolution est très intéressante quand même dans cette première saison.
Non, mais moi c'est la question qui me rend sceptique, c'est pas Wembanyama.
Très bien, tu vas nous expliquer pourquoi. Juste avant, on en saura peut-être plus jeudi, Arnaud, puisqu'il y a une conférence de presse programmée d'Adam Silver.
Oui, le commissionneur, juste avant le match donc entre Brooklyn et Cleveland, il va s'exprimer. Et évidemment, les questions vont fuser. Alors évidemment, l'année dernière, il ne pouvait pas s'exprimer parce que tant que Wembanyama n'était pas drafté, il ne pouvait pas dire que c'était un joueur des Spurs. Bon, voilà, on est très tatillon, évidemment. Et puis tant que c'est pas fait et tant qu'il n'a pas été annoncé lors de cette soirée de la draft fin juin. Mais évidemment, tout est sur toute cette question brûle l'élève de tout le monde, à savoir est-ce qu'il va venir ou pas, parce que ce serait déjà que les places sont chères. Mais alors, j'imagine pas un match de Victor Wembanyama à Paris. Mais voilà, c'est quand même une grosse usine à gaz, hein. Délocaliser un match NBA, même si on a l'habitude, et avoir les Spurs ou pas. Alors souvent quand j'étais à San Antonio, on se demandait est-ce que ça gênerait pas Greg Popovich. Visiblement non, venir en France gênerait pas Greg Popovich. Vous savez, il est pas forcément fan de ces matchs. Mais bon, aller faire quelques petites emplettes dans des boutiques ou des vinothèques, ça gênerait pas. Mais voilà, pour l'instant on n'a pas la réponse, mais peut-être que Adam Silver va arriver avec des étrennes et nous annoncer pour 2025 un match des Spurs à Paris début janvier.
C'est un marché très important, la France, pour la NBA, Arnaud.
Oui. Oui, parce que déjà, on se souvient que le match était à Londres avant, où l'NBA avait essayé, parce que déjà ça parlait la même langue, essayer de culturellement pousser, sauf qu'on s'est, côté NBA, aperçu que même avant l'éclosion de Victor Wembanyama, la France est un marché très important, parce que il suffit de vous balader dans la rue et de voir tous les matchs NBA, tous les maillots NBA, et même aux États-Unis, on se rend compte que c'est important. La France, JB Bickerstaff, le coach des Cavs, nous a répondu il y a quelques instants, et on lui demande qu'est-ce que France et basket, à quoi il pense, et il pense à énormément de choses.
C'est incroyable. Vous savez, pour moi, des joueurs comme Tony Parker, Wemby ou Boris Diaw, ces gars-là, ils ont eu un énorme impact en NBA. Ça montre aussi comment le basket peut être spécial à travers le monde. Et je pense que c'est aussi ça, la NBA. Pouvoir voyager et exposer notre jeu, notre basket au monde entier.
Et peut-être pas fini avec Zachary Risacher. Et en fait, c'est ça ce qu'on s'aperçoit. La NBA s'est aperçu. La France est un énorme pourvoyeur de talents et de stars, entre guillemets. Et ça, aucun autre pays, pour l'instant, n'est en mesure de l'offrir. Tout du moins en Europe, parce qu'il y a aussi le Canada qui s'ouvre, mais qui est très proche culturellement. Mais sinon, la France est un petit peu seule au monde de ce point de vue-là.
Il y a l'Amérique des Sud aussi, ils vont au Mexique faire des matchs.
Mais c'est proche aussi.
Oui.
Et alors, est-ce que la rumeur, c'est pas vraiment une rumeur, est-ce que la probabilité de voir de nouveau un Français numéro 1 de la draft avec Alexandre Sarr, c'est quelque chose de sérieux ou on est trop loin là?
Moi, ça me parle. Moi, j'aime bien les mock drafts, mais pour moi, c'est trop loin encore. La NCAA vient
à peine. Il demandait à Zachary Risacher, voilà. Surtout. Il dit qu'il devait être drafté très haut. Enfin,
ou Ryan Rupert.
Ryan Rupert, qui était dans la Green Room.
Mais qui était terminé deuxième tour. La NCAA vient à peine de débuter. Alexandre Sarr est out là, 3 semaines. Il s'est pété, il est out 3 semaines. Ça me paraît prématuré. Après, c'est une draft où il n'y a pas de Victor Wembanyama, il n'y a pas un nom qui ressort. Donc, éventuellement, tout est possible.
Ouais. Alors, Fred, pourquoi cette question te semblait curieuse de se poser la question de savoir si Wembanyama débarquerait à Paris l'an prochain en tant que joueur dominant de la NBA?
C'est déjà un joueur dominant de la NBA.
Oui, mais tu comprends, il n'est pas encore au niveau des Embiid, Jokic, Tatum et compagnie.
Alors, il faut comparer ce qui est comparable. À leur âge, il est meilleur.
Oui, à leur âge, je te parle sur l'instant.
La hype, elle est incroyable. Il reviendrait dans son pays, mais ce serait une méga superstar.
Je parle juste en termes sportifs, là, en termes d'impact médiatique.
C'est lui le go-to guy de cette équipe des Spurs, même s'il joue pas assez au goût de nous Français et tout le monde d'ailleurs. C'est un joueur incroyable. Il a matché avec Giannis. Il faut avoir vu le duel Giannis-Wembanyama pour se rendre compte.
Peut-être le meilleur match des Spurs cette année. Ce match contre Milwaukee la semaine dernière, incroyable.
Contre Jarrett Allen, c'est intéressant aussi. Il joue pas assez, oui, Victor, mais il est bon aussi. Honnêtement, Mais c'est une superstar déjà, Victor Wembanyama. Alors déjà, il était une superstar avant d'y aller, en étant numéro 1 à la draft, avec cette hype, avec tout ce qui se passait autour. Là, ce qu'il montre sportivement, c'est monstrueux. L'année prochaine, il sera encore meilleur. Il lui reste une demi-saison, même un peu plus, pour montrer des choses, en espérant une nouvelle fois, je me répète, hein, mais que Popovic le laisse jouer un petit peu plus.
Mais est-ce que tu penses, par exemple, qu'il sera All-Star dès cette saison ?
Alors, je pense qu'il sera dans la discussion. Être All-Star, voilà, c'est ça, très compliqué. Il sera dans
la
discussion.
Mais quand t'es un joueur dominant, il n'y a pas de débat.
Oui, mais dans il y a combien de joueurs dominants ?
Il joue 25 minutes.
Il joue 25 minutes. Il faut prendre en compte la concurrence aussi à son poste-là. Quand tu vois
Clôture. Il faut prendre en compte les résultats aussi un peu, malheureusement.
Et quand tu vois qu'Alperen Şengün, pour moi, mérite plus que Victor Wembanyama cette année d'être All-Star, parce qu'il fait une saison exceptionnelle dans une équipe qui gagne plus de matchs.
Intérieur de Houston.
Oui, oui, oui. Alors, depuis Blake Griffin, il n'y a pas eu de rookie All-Star directement. Il est déjà dans les 10 dans le classement du public. Ça veut dire qu'il a déjà un impact médiatique outre-Atlantique, même si nous Français, je pense qu'on pourrait un peu plus se mobiliser parce qu'on a le droit de voter pour envoyer.
J'ai vu ton appel dans Stephen Time.
Ouais, tu te rends compte que Zaza Pachulia, le Georgien, il a failli être starter All-Star Game il y a quelques années. Il avait 1,5 million de votes. C'est ouf qu'on soit pas capable de se mobiliser. Zaza Pachulia. Mais pour revenir sportivement, Victor fait des choses uniques pour son âge, uniques pour son gabarit.
Meilleur contreur de la NBA, hein. Oui, meilleur contreur pour sa première saison.
Il va être numéro 1 en compte. Donc s'il vient en 2025, ça va être. Je ne vais pas te parler d'émeute, mais ça va être un carnage médiatique. Sachant que Pierrot, les jeux vont passer par là avant aussi.
Mm-hmm. Et c'est bien qu'il joue que 25 minutes pour les jeux finalement.
Oui,
nous, hein.
oui, c'est bien.
Non.
Moi j'ai envie qu'il joue. Après, on sait pourquoi il joue 25 minutes. Il attend une IRM de contrôle.
C'est bien qu'il soit économisé pour cet été. On ne peut pas dire le contraire.
Il a 19 ans, Arnaud. Ça va, on l'économisera quand il aura 35 ans. Là, il faut qu'il joue. Mais les jeux vont passer par là cet été. Peut-être qu'il sera à la cérémonie d'ouverture ou pas. En tout cas, avec ses 2,24, ça va être une des attractions des Jeux Olympiques pour la délégation française.
On va pas le rater,
donc oui. Déjà, pour ceux qui ont échappé au phénomène Victor Wembanyama l'année dernière avec sa draft, là, ils vont pas pouvoir y échapper cet été. Ça veut dire que si jamais les Spurs viennent à Paris en 2025, ça va être un monument, un événement exceptionnel.
Mais Stephen, il faut qu'il joue deux matchs. Il faut qu'il joue deux matchs. C'est de plus en plus habituel.
Toute la semaine même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as deux matchs, ça te permet d'avoir plus de personnes qui vont voir encore le truc. Il y a beaucoup de back-to-back maintenant en NBA où tu joues deux fois la même équipe.
Il n'a pas le droit de les jouer.
Oui, mais là, c'est un peu particulier, c'est la France. Moi, j'espère.
Ah, faut qu'il joue deux fois la même équipe aussi.
Deux fois la même équipe. Comme ça, il n'y a pas de problème de déplacement. Tu as les deux matchs, tu fais une hype encore plus forte.
Il y a 32 000 personnes qui peuvent y aller et les billets ne sont pas à 3 500 $ derrière un poteau tout en haut.
Tout à fait.
Mais vous parlez d'impact médiatique. Non, parlez-moi de sport. Parce que tu me dis.
Sport, il va faire un carnage s'il joue.
Tu me dis, par exemple, pour le All-Star Game, il faut voir la concurrence à son poste. C'est dominant.
Oui, mais c'est pas que les big men. Front court, Kawhi Leonard est considéré comme front court.
Paul George est considéré comme front court. Mais du coup, tu peux pas dire qu'aujourd'hui c'est un joueur qui domine par rapport à Kawhi Leonard par exemple. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous pensez que sa progression peut être telle, aller tellement vite que dès l'an prochain il soit dans le top 5 des meilleurs joueurs de la
clairement,
ligue
clairement,
toi tu penses?
Moi je pense clairement.
Moi je pense quand même. Alors déjà, saison presque.
Déjà il est pas loin d'être parmi les meilleurs joueurs de la ligue.
Alors,
avec une équipe à 5 victoires, mais là une saison rookie d'apprentissage, une apprentissage sur son corps, sur l'enchaînement des matchs, sur la vie en NBA. L'année prochaine, Victor Wembanyama, pour moi, en termes de points, enfin en termes de stats, il va tout arracher.
Mais il faut voir Chet Holmgren. L'année dernière, il n'a pas joué, mais il a suivi son équipe, il a été avec eux. Et bah, tu vois la différence quand il est sur le terrain. Bah, tu vois qu'il a plus de vécu déjà. Donc, avec une année de vécu en NBA, avec ce qu'il est en train de produire maintenant, là, et bien sûr.
Arnaud. Et puis OKC n'était pas dans la même spirale de défaite l'année dernière aussi que les Spurs. C'est quand même déjà plus en place avec la star Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey à la main, tous ces joueurs là.
Victor, s'il joue 35 minutes de moyenne, c'est carnage.
Ah bah, bien sûr.
Carnage.
C'est 30.15 rebonds.
Oui.
Parce que là, il est sur les 5 derniers matchs, il est à 25 points en 25 minutes.
Ça va, c'est rentable.
C'est 10 rebonds, 5 blocs.
Ça se passe bien le clinique à Marcel Sardan.
Écoute,
Arnaud,
ça se passe bien avec des enfants. Il y a de l'ambiance. Bon, mais toujours, tu sais.
Il y a le professeur Strauss qui est là ou pas?
Oui, il est là. Alors en fait, tu as des joueurs des Cavs qui sont là avec des enfants venus, dont certains qui sont touchés par un handicap. Et donc là, tu as Donovan Mitchell qui conseille au lancer franc. On voit aussi Luke Walton qui fait partie du coaching staff de JB Bickerstaff, ancien coach NBA et ancien joueur aussi. Jarrett Allen qui est là, qui fait quelques drills. Lille pour montrer comment on dribble et on passe le ballon entre ses jambes. Donc c'est assez bon enfant et c'est ça aussi que la NBA veut instaurer. Là-bas, c'est très développé l'esprit de communauté, de servir la communauté, de faire des actions caritatives. Et donc c'est pour ça que c'est à la fois prévu au planning. Il n'y a pas que des sorties en boîte de nuit ou des sorties shopping. Il y a aussi plein d'interventions qui sont prévues auprès de jeunes et auprès de plein de personnes de la région parisienne.
Pour revenir à Wemby, est-ce que tu es bluffé, Fred, par le niveau qu'il a déjà atteint ? Tu as évoqué ce match contre les Bucks où il a vraiment fait le match avec Yanis, qui contre à la fin même. Hein.
Oui,
alors ce qui dégoûte dans ce match, c'est qu'ils font un match fantastique. Il est décisif pour revenir, pour avoir le ballon de l'égalisation.
Non, tu confonds avec le match contre les Cavs, où il fait une passe à Sohan, ouais. Qui fait n'importe quoi.
Ça, c'est contre les Cavs ?
Ouais, dimanche.
Ah, ok, pardon. Je
ne sais pas si soit. Finalement, non, on a vu l'action. Est-ce que c'est pas plutôt, je ne sais plus qui était, Keldon Johnson, je crois, qui aurait dû descendre
dans le corner.
Dans le corner.
En fait, j'aurais surtout préféré
que Victor shoot.
Oui, moi aussi. Mais c'est Sohan qui est là, qui.
Ce qui dégoûte, c'est que t'as pas un mec à côté de lui pour gagner un match, en fait.
Mais ça, on le savait. Hein.
Ouais, c'est pénible.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut quand même se rendre compte des réalités. Ils ont le premier tour de draft, pourquoi ? Ouais. Parce qu'ils sont mauvais.
C'est une équipe indisciplinée qui fait des erreurs de gamins, d'enfants.
Gamins pour la plupart.
Alors, ils sont capables de très bien jouer au meilleur au niveau de toutes les bonnes équipes pendant 5, 6, 7 minutes. Mais à un moment donné, c'est les Spurs. Donc, ils jouent à un niveau de mauvaise équipe NBA, ce qui fait qu'ils prennent un patch. Voilà, ils n'arrivent pas à gagner les matchs serrés.
C'est la constance qui leur manque.
Ils n'arrivent pas à gagner les matchs serrés.
Est-ce que tu es quand même étonné du niveau qu'il a déjà atteint, Fred ?
J'ai envie de dire oui et non. Alors, non, parce qu'on
avait dit que c'est bien meilleur que ses premiers matchs NBA, on est d'accord, il est passé dans une autre dimension.
Il prendrait sa vitesse grand V, mais en même temps, on savait que ce garçon avait cette capacité à apprendre très très vite. Mais on l'avait dit, on avait dit avec Stéphane, je me rappelle, qu'il serait à 20-10. Mm-hmm. D'accord ? Donc, on est à ça. Donc, finalement, sur les stats, on n'est pas si impressionné que ça. Mais par contre, son évolution dans le jeu, en aussi peu de temps, sa capacité à faire des choses incroyables. En fait, c'est un top 10 à lui tout seul déjà, ce qui est hyper impressionnant. Oui. Et en plus, dans une équipe où, franchement, ça doit être très très relou de jouer parce que tu gagnes pas de match, ça se passe pas bien. Popovic, il vient.
Après, il est content, mec. Popovic, il est content. À la fin, il a le sourire quand Stéphane il tire le milieu du terrain. Il est content. Il a une petite tape. Il est content.
Qui se rentre énervé dans les vestiaires aussi. On voit énormément de frustration. Il le dit un petit peu dans ses propos et parce que il aime pas perdre, comme tout grand champion, et que là, franchement, il mange quand même son pain noir.
Mais au-delà des chiffres offensifs, des highlights qui sont fantastiques, l'impact défensif de Victor Wembanyama depuis qu'il joue pivot, qui reste dans la raquette, il est énorme. On a vu, c'était le jour et la nuit quand il est sorti, quand il était sur le banc pour Jarrett Allen, quand Victor est sur le banc, c'est la kermesse pour lui, il dunk sur tout le monde. Quand Victor revient, il y a un impact dans la dissuasion, même sur les tirs.
En même temps, en remplaçant, c'est Zach Collins.
Oui, les mecs ne viennent pas shooter et les chiffres le montrent, les datas le montrent. Quand Victor est sur le terrain, la défense des Spurs, elle est partie des meilleures en termes de pourcentage laissé sur les tirs, en termes de points encaissés. C'est énorme.
Il est meilleur que Rudy en défense parce qu'il est capable de tenir les 1 contre 1 défensivement sur un extérieur.
Aussi pour l'équipe de France.
Honnêtement, il est meilleur parce qu'il est capable de tenir les 1 contre 1 des extérieurs sur lui.
Écoute, il va nous emmener.
Non,
qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce que Vincent Collet va considérer que Victor est un pivot ?
Il peut le considérer.
Moi, je pense qu'il connaît trop bien Victor et il sait qu'il peut jouer n'importe où, donc je pense qu'il le fera débuter au moins au début avec Rudy en 4.
Ou alors tu démarres avec Victor en 5 et tu fais Gershon en 4.
L'avantage, c'est que tu as quand même un gros potentiel sur l'intérieur. Moi, c'est l'extérieur.
Qui est le garçon le plus difficile à convaincre qu'il faut qu'il sorte du banc ? Rudy Gobert ou Gershon Yabusele ? Moi, je sais, j'ai la réponse à deux.
C'est Rudy Gobert, évidemment.
Oui.
Il me regarde avec celui-là.
Non, mais si chacun fait 30 minutes, on s'en fout, non ?
Enfin, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. Tous les mecs qui n'ont jamais joué à haut niveau vont dire débuter, c'est pas important, c'est important, c'est de finir. Non,
et c'est pas gênant, là je vous pose une question de non-connaisseur. C'est pas gênant qu'un mec fasse toute sa saison en club pivot et qu'il arrive en équipe de France qui joue 4, c'est pas un problème.
Après, c'est du basket FIBA, déjà, c'est différent de la NBA.
C'est un pivot NBA.
Victor a joué 4 quasiment toute l'année avec Vincent Collet l'année dernière, parce que c'était Tashaun Thomas, les deux ils étaient ensemble à l'intérieur. Je sais pas. En tout cas, ça serait plus une problématique pour les équipes adverses qui jouent 4 ou 5 à son Victor. Ça va être un casse-tête pour les équipes adverses.
Clairement, Twin Towers, défensivement, ça va être monstrueux. Offensivement, ça peut être très sympa.
Très bien. Bon, on se fait pas de soucis pour Vincent Collet.
Pour faire la sélection aussi, on se fait du souci.
Moi, c'est sur l'extérieur, je me fais du souci, pas vraiment sur l'intérieur.
Il a gavé de bons intérieurs et un peu moins d'extérieur. Quoi.
Les Mathias Lessort, Vincent Poirier, Moustapha Fall qui sont excellents en Euroleague en ce moment. Hein.
Mais c'est pour ça qu'il a pléthore à l'intérieur. Hein. Mais je te dis, le problème, c'est qu'il faut les nourrir, ces gens-là. Il faut des bons extérieurs
capables de leur donner. Tout le monde ne sera pas au JO.
Ah non.
Vincent Paris, il sera,
pas,
non ?
En tout cas, moi, j'y serai pas.
Toi, tu seras pas, ouais.
Non.
Frère, tiens, tu seras en tribune avec moi.
Bah, il y a beaucoup de big men.
Moi, je suis à côté aussi, pas très loin, t'inquiète.
Allez, c'est un Basket Time spécial NBA à Paris et nous allons passer à la partie historique.
Dr. J revolutionized the NBA. Before Julius Erving, dunking was considered an unskilled shot. He brought with him a playground style that made dunking an art form.
Julius Erving slams it down for Philadelphia.
He could fly through the air like a bird, posterize 7-foot centers with power.
Malone, pass is deflected, going to be stolen, I think, by the doctor. Yes, he's got it. Here he comes. Ray rocked the baby to sleep and slammed.
Julius will get the last try off from just beyond half court. He got it! A three-pointer! Julius Erving! Do you believe that? Name. Do you
believe the way that? Dr. J glided through the air was mesmerizing, and every time he played, you knew you were about to see something special.
Down, Irving on a move!
Julius is unbelievable in a wide open situation. I have never seen anybody be able to do the things that he can do.
He paved the way for players like Michael Jordan and is one of the greatest players of all time.
Alors, on va parler d'une légende de la NBA, je pense, pour la première fois dans ce podcast. C'est grâce aux Nets, tout ça. C'est vrai qu'on parle pas si souvent que ça des Nets. Les Nets qui ont été la première franchise de Julius Erving, le Dr. J. Légende des Sixers, hein, mais qui a démarré donc aux Nets, champion ABA avec les Nets. C'était avant la fusion NBA-ABA, plutôt pour être à quoi.
ABA, ça fait le groupe un peu.
Ouais, c'est vrai.
T'aimes bien d'ailleurs ABA, toi, hein.
Oui, j'aime bien ABA. T'aimes pas ABA, toi?
Et les ABA, t'aimes bien?
Les ABA, alors ça dépend lesquels.
Ne parlez pas de ça, il y a des fêtes spéciales à Limoges sur les ABA. Donc,
les Rognons, c'est très bon.
Rognons, t'aimes bien? Les Rideaux, t'aimes bien?
Les Rideaux, c'est excellent.
C'est exceptionnel.
Allez, les Rideaux, c'est exceptionnel. T'aimes ça, Fred?
Oui, les Rideaux, oui.
Est-ce que l'andouillette est considérée comme les abats?
Je pense
non.
Pas.
Non.
Ah, on a un spécialiste.
Je suis né à Troyes et la spécialité de Troyes, c'est l'andouillette.
Et donc, c'est pas des abats, l'andouillette?
Non.
D'accord, après il y a le cœur, je suppose. Ça, j'ai jamais essayé.
Non, moi non plus.
Eh hey, les gars,
et Jessica,
passer à autre chose.
Et Jessica Abba, t'aimes bien?
Et là-bas de Berlin?
Là-bas de Berlin, c'est moyen, ça, en Euroleague, là-bas de Berlin.
Bon, alors, c'était avant la fusion NBA-ABA, j'étais en train de te dire, c'est la ABA, une ligue dissidente, mais finalement, la NBA a gagné, et Julius Erving aura été champion dans les deux ligues. C'est un joueur qui a révolutionné le jeu, mon cher Arnaud.
Aérien, et c'est vrai que ça paraît loin de s'imaginer deux ligues concurrentes parce que la NBA n'était pas aussi surpuissante qu'aujourd'hui dans cette ABA de 67 à 76, et Julius Erving en était la tête de proue, mais ça n'a pas suffi à générer économiquement quelque chose, notamment au niveau des droits télé. Et donc en 76, Julius Erving a dû rejoindre la NBA. Il était au Nets, qui était une des franchises qui a été ensuite en 76 incorporée à la NBA. Il y a les Spurs aussi, on n'oublie pas le Jazz de Utah ou encore les Pacers. La NBA était précurseuse puisqu'il y avait la ligne à 3 points qui a ensuite été adoptée en NBA en 79, et Julius Erving était l'une de ses stars, notamment avec un potentiel athlétique qui n'avait jamais été vu à l'époque. On avait vu athlétiquement des joueurs dominants comme Will Chamberlain, mais en termes de jus, d'adrénaline, Julius Erving a été précurseur et a influencé énormément ensuite de joueurs, et notamment Michael Jordan, puisque Dr. J était son idole, et on se souvient de toutes ces actions spectaculaires. On voit ces images en noir et blanc ou parfois un peu en couleur de Dr. J, qui était un joueur avec un jus, comme on dit, absolument incroyable, des qualités athlétiques, et c'était en ça qu'il était aussi précurseur, d'avoir démontré tout ce potentiel, et il a fait rêver des tonnes d'enfants, y compris donc le GOAT Michael Jordan.
Alors, c'est un joueur aérien, nous a dit Arnaud. C'est ça qui va tout changer. C'est un des premiers mecs à dunker, à voler, en fait.
Voler, ouais. C'est là qu'on a appris, Fred, le terme de hang time. Clairement, c'est-à-dire le temps de suspension en vol, parce qu'il avait un hang time incroyable. Donc, moi, j'avais envie de te parler. Tu m'as dit qu'on allait faire une spéciale Nets.
Mm-hmm.
Donc, forcément, on va vous parler d'un joueur des Sixers. Dr. J.
Non, mais c'est vrai que Julius Erving a fait une grande partie de sa carrière aux Sixers, mais il a démarré au Nets.
Il a démarré au Nets, mais il est effectivement plus connu pour avoir joué aux Sixers. Il a d'ailleurs joué avec Charles Barkley. Je ne me souvenais plus de ça, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, juste pour recontextualiser, on est le 11 mai 1980, c'est les finales NBA, justement. Los Angeles contre les Sixers. Les Los Angeles Lakers mènent 2-1, et les Sixers veulent égaliser. Donc, ils sont obligés de faire un grand match, et ils le feront d'ailleurs. Mais on va tous se rappeler d'un move que Magic Johnson qualifiera comme le plus beau move de basket qu'il ait vu.
Mm-hmm.
It's 89-84. Sixers, and they get inside. And unbelievable. Julius Erving. Watch this fantastic move by the doctor.
in the air, palm it over the right hand, floating, reaching, and spinning it in.
Julius in the air.
Julius in the air. Et voilà. Et pour moi, honnêtement, quand je pense à ce joueur, à Julius the Dr. Irving, je pense à ce move qui est juste incroyable. En plus, c'est en finale NBA. Donc, juste
pour une parenthèse quand même, t'as pas un anglais de ouf ou un genre de basket, hein? Parce que normalement, vous êtes censés tous maîtriser à mort l'anglais.
Alors,
là, non
c'est pas parce que t'as pas l'accent que tu es pas un bon anglais, déjà. Et en fait, je faisais exprès pour que tu puisses comprendre.
Tag, ah, merci. Merci.
Excuse-moi, je suis désolé. Hein, tu préfères que je le fasse plus en carré?
Non, c'était très bien.
Ok. Donc, juste pour recontextualiser, on est dans cette finale et Dr. J a le ballon, il pénètre ligne de fond et là il monte au dunk comme d'habitude, sauf qu'en face de lui il y a Kareem Abdul-Jabbar. Donc en l'air, il se ravise, il passe sous la planche, il met le ballon de l'autre côté, à un mètre de la planche quasiment, il passe sous le cercle et il finit par un lay-up renversé avec la planche. Et il le dit lui-même, il est tellement à bout d'énergie, il a plus de jambes, il a plus de hang time, il a plus rien du tout, qu'il tombe au sol. C'est un move où le mec vole. Il y a un hang time incroyable. Tu te dis, en plus, qu'il a changé de décision en l'air. C'est un mouvement que, franchement, peu de gens peuvent réaliser. Il peut réaliser, et je pense que ça a fait rêver plein de monde.
Et que c'est un mouvement maintenant que les meilleurs font. C'est pas si facile à faire, mais c'est généralisé maintenant.
En fait, il avait l'avantage d'avoir de très grands bras, avoir ce hang time, donc cette capacité à rester en l'air très, très importante. Et en plus, il avait ce côté smooth, tu vois. Alors, il était hyper mouillé.
T'as compris, smooth?
Ouais.
Non, mais des actions iconiques avec ce hangtime, on se souvient de Jordan 91.
Oui, voilà, ça fait penser à contrôler les cordes aussi. Où Michael Jordan monte pour le dunk, et en l'air, il se ravise, il change de main, il met un petit lay-up main gauche. Bah ça, c'est moins fort que Dr. J en image.
Alors, le lay-up, pour le décrire comme ça en radio, c'est une finition avec le bras tendu vers le panier.
Oui, c'est ça.
Sauf pas forcément renversé, comme tu l'as décrit.
Non, hein. Bah si, il est renversé là. Mais
il ne faut pas forcément passer sous le panier. C'est juste une finition, la main tendue vers le panier, c'est ça.
Toi, tu me cherches depuis ce matin.
La paume vers le ciel.
Voilà.
Oui, sauf que c'est pour ça que j'ai expliqué un lay-up renversé. C'est-à-dire qu'en théorie, il monte pour aller direct, pour aller dunker, mais comme il voit qu'en face, il y a un très bon contreur, un joueur ultra dominant, de grande taille, il est obligé de passer sous le cercle pour l'éviter, et là, il fait un lay-up renversé, parce que concrètement, il est renversé par rapport au cercle. Donc. Et cette action, elle est juste iconique, fantastique. Allez la voir si vous ne l'avez jamais vue, et vous allez vous rendre compte pourquoi Michael Jordan a adoré ce joueur.
Donc ça, c'est un des marqueurs du style Julius Erving.
Oui.
Tu vas nous parler d'un autre move, Steve.
Ouais, moi du dunk, je vais parler du dunker, Julius Erving. On est en 1976, c'est le All-Star Game de la ABA à Denver. C'est le dernier All-Star Game de la ABA avant la disparition de la Ligue. Et surtout, c'est le tout premier concours de dunk organisé dans l'histoire du basket pro américain. Avant, il n'y avait jamais eu de concours de dunk. Et Dr. J va réinventer le dunk lors de ce Slam Dunk Contest. C'est le premier homme à défier un petit peu les lois de la gravité contre des concurrents légendaires sur ce concours de dunk. Parce qu'il y a Artis Gilmore, qui est un Hall of Famer. Il y a George Gervin, The Ace Man, la légende des Spurs, Hall of Famer aussi. Et David Thompson, la légende des Nuggets, qui est Hall of Famer. Alors, la règle du concours de dunk, elle est bien différente des règles actuelles. Tu as 2 minutes pour chaque dunker et tu as 5 dunks à réaliser, dont 2 imposés. Il y en a un imposé avec un départ sous le cercle et un autre où tu dois décoller entre la ligne des pointillés et celle des lancers francs, un dunk lointain. Donc, Dr. J, il prend 2 ballons d'entrée de jeu pour son premier dunk, il se met sous le panier, en détente sèche, bam, il va dunker avec les 2 ballons. Là, déjà, tout le monde se dit, ah ouais, d'accord, au niveau de l'originalité, c'est énorme. Et ensuite, deuxième dunk imposé, un dunk lointain, Dr. J s'approche vers la ligne des lancers francs, il regarde comme ça, il met son pied, et ensuite il part de l'autre côté pour prendre son élan, il part de l'autre côté, et là les gens se disent, non, c'est pas vrai, il va pas le faire, c'est un peu trop loin. Et ben si, Dr. J va dunker des lancers francs, appelle
sur la
ligne des lancers francs, c'est le tout premier de l'histoire du basket à dunker des lancers francs, et le free throw dunk est né, alors, qui a été repris ensuite, copié.
Critique pas son anglais sur le free throws.
Free throw dunk est né. Le dunk de lancer franc est né. Et donc, il va forcément remporter le concours de dunk. Mais ça va donner des années plus tard, en 87 et 88, à Michael Jordan, qui a voulu reproduire ce dunk-là. Alors, la différence, c'est que Jojo, il y a ce petit pump avec le bras. Et puis, il y a cette position des jambes qui est iconique. On a tous la photo en tête du dunk de Michael Jordan des lancers francs. Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il avait vu son idole Dr. J le faire en 1976 à Denver.
Le problème, c'est que j'ai reconnu l'accent de Limoges. Et chez Steve, j'ai pas reconnu l'accent de Cholet. Donc, je l'ai pas interrompu. Fred. C'est parfait, Julius Erving, Dr. J. C'est l'heure de passer au quiz, messieurs. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité,
coup. Ah. Le mec sauce sa question. Ah,
t'as qu'est-ce qu'elle est bien écrite cette question, franchement.
Ça prend pour Julien Lepers.
Ah oui.
Ouais, ouais, ouais.
Ah, je sais qui c'est.
Moi,
c'est,
je sais pas.
C'est très facile. Je sais qui c'est.
Vous avez le cerveau abîmé, c'est pour ça, c'est tout.
Mais faites pas les paysans. Parle... T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars. Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, qui me regardait comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Tu peux me laisser parler.
Alors, allez-vous attendre que Steve réponde aux questions?
Alors, moi, j'ai juste une question. Je suis ta tête de turc dans ce podcast. Non,
pas du
parce
tout,
que
ça
parle
ça varie,
pas bien anglais, hein. Je ressemble à un poisson rouge,
non,
des
non,
calamars.
Non, c'est des
tête,
calamars.
C'est sa tête d'Alperen Şengün.
Ouais, alors, c'est ça.
C'est bah, un quiz prends... sur les Cavs et les Nets, d'accord?
Ah ouais, surprenant.
Mais comme souvent, comme sur j'ai instauré et... ça depuis quelques semaines, nous allons commencer par des petites questions de culture générale. Il y a toujours un rapport, bien sûr, soit avec les Cavs, soit avec les Nets, un rapport proche ou lointain, peu importe. Vous allez me dire, en 1983, pour commencer, quelle chanteuse,
Diana Ross ?
Non. Et dans un état proche de l'Ohio ?
Oh non.
Isabella Gianni ?
Isabella Gianni, oui. L'excellent, Fred. On était obligés, non, aujourd'hui ?
C'est catastrophique.
Premier point pour Fred. Qui a écrit cette chanson ?
Johnny Hallyday ?
Non.
Julien Lepers ?
Non. Patrick Bruel ?
Non.
Schultes ?
Jean-Jacques Goldman ?
Non. Vous avez vous
Isabelle rappelez ?
Barbelivien ?
Non.
Barbelivien ?
Daniel Balavoine ?
Un des plus grands compositeurs.
Michel Berger ? Serge Gainsbourg ?
Serge Gainsbourg. Et ouais, c'est Serge Gainsbourg qui a fait cette merde.
Comme quoi, il n'a pas fait que des bons
c'est
trucs.
Incroyable, hein. Non ?
Oh, Gainsbourg !
Tiens, on va continuer. Alors là, c'est blind test. Cette fois-ci, vous devinez qui chante.
Barry White ?
Non, non.
Michel Delpech.
C'est Delpech.
Michel Delpech, bravo. Viva Donovan. Oui, oui, c'est pour Arnaud. Ah. Donovan, Michel Delpech.
Il était toujours pressé, lui. Delpech-toi.
Donc ça fait un point chacun sur les questions musicales. Dernière question de Culture G. Le pont de Brooklyn relie Brooklyn à Manhattan.
Ouais, tout à fait.
Mais traverse quel cours d'eau ?
East River.
East River, bravo Arnaud, le plus rapide. Et non l'Hudson, qui est de l'autre côté. Ok, ça fait 2-1. Arnaud a pris l'avantage. Nous allons passer.
T'as compris que ce qui concernait pas le basket. Ah, ça fait 2-1, j'ai un point moi.
Ouais.
Oui,
Fred aussi, il a un point.
Oui, oui. Deux points pour Arnaud et un point pour les deux.
Non, il a deux, il a répondu deux fois.
Pourquoi il a répondu
deux fois ? Delpech, c'était lui.
J'ai Michel Delpech.
Ah, c'est lui.
Ouais. Donovan, Michel Delpech.
Donovan, Michel Delpech.
Je vais lui dire, il sera content.
Donovan, Michel Delpech, Melba.
Donc, je vais vous faire une petite question. Vince Carter ou Jason Kidd ?
Ou les, deux, ou les deux ou pas
ou les deux ou aucun des deux.
Ah, okay.
C'est chacun son tour. Donc on va démarrer avec Fred Weiss. Je suis le cousin de Tracy McGrady.
Vince Carter.
Les deux, ça aurait été trop.
Arnaud, je suis sorti avec Brooke Shields.
Jason Kidd.
Eh non, c'était un piège, aucun des deux. C'est André Agassi qui est sorti avec...
Il aurait pu faire les deux.
Jason
chaud.
Kidd est sorti avec Tony Braxton.
It was a man enough.
Oh, Tony Braxton.
Ah oui.
Oh là là.
Et d'ailleurs, ça a créé une embrouille à l'époque à Dallas avec Jimmy Jackson, parce que Jimmy Jackson était aussi sur Tony Braxton, je crois.
Et la légende dit que c'est ce qui a provoqué l'explosion des Mavs.
Exactement, et ça a provoqué une embrouille avec moi aussi, parce que j'étais à un moment donné sur Tony Braxton aussi. Mais...
Bah c'est à toi de répondre à la question, toujours sur les compagnes et les aventures. Je suis sorti avec la sœur d'Antoine Jamison.
Alors, Antoine Jamison, il a joué où ? Il a joué...
Il a le bon raisonnement.
Antoine Jamison, il a joué à Golden State. Je suis sorti avec la sœur d'Antoine Jamison. Bon, c'est bizarre, ça.
Ah oui, c'est bizarre, hein.
Jason Kidd m'a l'air d'être un petit charreau, je veux dire Jason Kidd.
Bon, il y avait un piège, c'était Vince Carter, c'était à la fac, à North Carolina. C'était les deux stars de North Carolina.
Ah mais oui, North Carolina.
Vince Carter et Antoine Jamison. On continue le tour. C'est donc à Fred de nouveau. Alors, pendant une bonne partie de ma carrière, j'ai fait un baiser imaginaire à chaque lancer franc pour envoyer un message à ma femme.
Mais c'est Jason Kidd, ouais.
Ben oui, avec Jumana, sa première épouse, avec qui ça s'est très mal
passé. Il n'y a pas une histoire chelou, non ? Il n'a pas mis les trois tartines, une
violence Kidd. Conjugale et compagnie, ouais.
Ben c'est pour ça que tu faisais des bisous pour
ensuite Arnaud. Non, mais c'était avant, ça se passe mal. Ouais. Arnaud, j'ai pratiqué le soccer à un très bon niveau en high school.
Jason Kidd ?
Excellent, Jason Kidd qui est fan.
Ça pourrait être que lui.
Il n'a pas des parts dans un club en Angleterre, Jason Kidd, c'est possible.
C'est possible, je n'ai pas cette information. Stephen, je suis champion olympique en 2000
et en 2008. En 2000 et en 2008
Fred souffre des réponses.
Mais non, mais en fait,
Steve,
quand tu as dit en 2000, j'ai dit les deux.
En 2000, Vince Carter est forcément champion olympique parce qu'il nous bat.
Ouais, mais Jason Kidd était là.
Le problème, c'est que.
Jason Kidd était là en 2000, ça c'est sûr. Après, sur l'autre, je sais pas.
Je vais dire les deux.
Eh bien, c'est seulement Jason Kidd. C'est le seul joueur à avoir remporté la médaille d'or 2000 et 2008.
Jason Kidd. Attends, j'ai pas compris la question comme ça, moi.
Ah oui, il y avait les deux. T'as mal répondu, en tout cas.
Jason Kidd, Vince Carter, aucun des deux ou les deux?
Oui, mais j'ai pas compris la question.
Je suis champion olympique en 2000 et en 2008.
Ok, d'accord. Voilà. Ah, fallait avoir fait le doublé. Ok, d'accord.
Exactement. Donc, alors là, on fait un point
posé,
score.
Très mal posé la question.
T'es sûr? Tu réécouteras le podcast quand même. Peut-être qu'elle était mal comprise. Fred, 3 points. Arnaud, 3 points. Et Stephen, 1 point. Est-ce qu'on va vers une énorme surprise dans ce quiz? Je ne sais pas.
On est sur la musique et Vince Carter.
On revient à des questions de pour tout le monde. Hein. Question pour tout le monde. Quel joueur des Cavs, de l'équipe actuelle, a été drafté par les Nets en 2017?
Jared Allen,
il prend la main, Fredo. Ça va vite. Ben Simmons, l'Australien.
Ben Simmons.
Ouais, je ne sais jamais comment on dit.
Ben en fait, comme c'est un Australien et pas un Américain, c'est Ben Simmons.
D'accord. Et c'est un spécialiste de l'anglais qui nous dit ça.
Dont de l'Australien, apparemment.
Donc, Ben Simmons, Australien. Quelle franchise, cette saison, il y en a 9 en NBA, quelle franchise compte 3 Australiens dans son roster?
Dallas.
OK, ici.
C'est Dallas. Tu peux me les donner, les 3?
Josh Green, Kyrie Irving et Dante Exum.
Excellent. Sur Dallas, on ne peut pas lui faire, quand même. Hein. Un vrai ou faux sur Donovan Mitchell?
Je déteste donc, Donovan Mitchell.
Steve. Donovan Mitchell.
Je préfère Jackie et Mitchell.
C'est possible, hein. Chacun son délire. Donovan Mitchell.
Oh, tu m'as regardé comme avec dégoût là. Mais c'est pas
non,
c'est lui
chacun
qui l'a dit,
son
c'est
délire. Moi,
il
y a pas de problème, hein. Steve, vrai ou faux, Donovan Mitchell a une véritable passion pour la salade César.
Donovan, comment tu pourrais inventer un truc débilos comme ça, gros? Ou alors il a vraiment une passion pour un truc et t'as remplacé le truc par la salade César? Je veux dire vrai.
C'est tout à fait vrai, parce que Donovan Mitchell, à un moment, il a dû se mettre à la diète.
À cuisiner.
Et du coup, il a découvert la salade César. Il dit avant, je ne bouffais jamais de salade. Il adore ça et il en bouffe presque tous les jours.
Attention à la salade César, si tu mets la sauce blanche et compagnie, là, c'est très
calorique. Justement, il a dit, le problème, c'est que la sauce César, c'est votre pire ennemi.
Exactement.
Donc lui, il s'arrange. Voilà. Ensuite, on passe à Arnaud, j'oublie pas de mettre le point à Steve. Arnaud, Donovan Mitchell a porté un maillot de Vince Carter lors du Dunk Contest de 2018 qu'il remporte.
Vrai?
C'est vrai, sur le 360, il a mis le maillot de Vince Carter. Et donc, Fred, vrai ou faux, son père travaille au New York Mets. Baseball.
Il a fait le signe à la...
Oui, il m'a montré pour...
Vrai ou c'est faux?
Non, il doit travailler au Jet.
Non, c'est vrai, c'est un excellent joueur de baseball, Donovan Mitchell. Donc ça s'est resserré. Fred, 4 points. Arnaud, 4 points. Steve, 3 points. Donnez-moi rapidité,
c'est
le
quoi,
nom.
Rapidité.
Le nom et le prénom des deux frères qui jouent aux Cavs.
Mobley.
Evan Mobley.
Evan et Isaiah.
C'est
Isaiah.
Bon pour Fred. J'ai dit nom et prénom. Hein.
Ah ouais, je trouve.
Là, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Donc c'est bon pour Fred. Ah, une petite charade, et après, ce sera la question multipoint, peut-être pour que tu reviennes, Steve. Charade, mon premier...
Prénom et nom.
Prénom et nom. Mon premier n'aime pas le duc. Mon second
Caris
serait
Levert.
Écolo s'il faisait de la politique.
Caris, le bif Caris Booba.
Oh, j'étais pas sur Caris.
Moi, ouais, j'étais sur...
Caris. Caris Levert.
Caris Levert.
Donc, c'est bon pour Steve. Eh bien, voilà, vous êtes presque à égalité. Fred, 5 points. Les deux autres, 4 points. Et c'est la question multipoint avec une nouveauté. Vous répondez chacun votre tour. Dès qu'il y a une mauvaise réponse, c'est éliminé. On va faire les franchises. Alors, c'est des joueurs très connus. Hein. Les franchises dans l'ordre.
Comment ça, dans l'ordre de quoi?
Vous me donnez les franchises. Je vous donne un joueur, par exemple Kobe Bryant.
Oui.
Bon, bah là, ça va aller vite.
Les Lakers.
Ouais. OK, mais dans l'ordre de sa carrière. De la première à la dernière, je sais pas.
Ah, tu donnes un joueur.
Par exemple, Boris Dio, Atlanta, okay. Ensuite...
Et il faut qu'il y ait joué, parce que cas de Kobe Bryant, par exemple, on peut dire en net, d'abord.
Alors, on démarre. Alors, c'est Steve qui a le moins de points, c'est Steve qui démarre.
Okay.
On démarre avec Kyrie Irving, évidemment, qui a joué dans les deux franchises. Donc, je te demande la première franchise. Ensuite, le joueur le suivant me donne la deuxième franchise. Et dans l'ordre, s'il y a une erreur, c'est éliminé, les autres continuent. C'est clair?
Ouais.
Pour tout le monde.
Oui.
C'est clair.
Donc, la première franchise de Kyrie Irving, Steve.
Écoute, je vais aller sur Cleveland.
Cleveland, ok. On passe à Arnaud.
Boston.
Boston. Ensuite,
Les Nets.
Les Nets, c'est bon pour Arnaud. Steve. Après les Nets.
Mais oui, mais et, il sait forcément.
Bah oui, il sait forcément. Bah, c'est comme ça, c'est le hasard.
Dallas.
Les Mavs, c'est bon. On change de joueur. On change de joueur. Arnaud, Jason Kidd.
Oula.
Oh là là,
première dur. Franchise.
Oula.
Les Nets.
Non, c'est pas bon. Ah. Arnaud, c'est fini. Fred.
Les Mavs.
Bah oui, bien sûr.
Ah,
les Mavs.
Mais oui, j'avais un doute parce que comme il était venu après Steve Nash.
Deuxième franchise, Steve.
C'est nul.
J'ai un énorme doute entre Phoenix et New Jersey. Je vais dire les Suns.
C'est bon. Les Suns.
Moi, je vais donner la réponse à Fred. Fred.
Bah, les Nets.
Les Nets, c'est bon. Donc, on en est à Dallas, Phoenix, New Jersey. Ensuite, Steve.
Après les Nets, donc il y a la finale NBA qui perd contre les Spurs, machin. Après, il part. Il retourne à Dallas, non ?
Excellent, ouais. T'allais pas chuter sur une question Dallas quand même. Ensuite, il y en a une autre avant la retraite, et là, ça va être dur. Frère.
Non, je sais.
Tu sais ?
Je sais, c'est ma franchise.
Excellent.
New York.
Bravo. Alors là, je vous fais le point. Vous êtes à la fin de la carrière de Jason Kidd, et Fred a un point d'avance. Et on termine avec Vince Carter.
Waouh, wow, il y en a beaucoup.
La première.
Facile. C'est pour qui ?
Pour toi.
Pour moi ?
Ouais.
Vince Carter. Reviens pas, moi je suis éliminé.
Ah bah oui.
Ah, il est éliminé, ah oui, ah, oui, ah oui, ok, j'avais pas compris. Vince Carter, la première, c'est Toronto.
Voilà, donc tu égalises. Fred.
Deuxième, j'aurais dit les Nets.
Excellent.
Ah putain.
Ensuite, Steve.
Orlando.
Excellent, vous êtes wow. Bon. Voilà, bravo. Hein.
Bien joué.
On arrive sur Fred.
Voilà, c'est chaud.
Il en reste encore un petit nombre, hein.
Voilà, c'est vraiment chaud.
Steve, il pense qu'il va gagner là, ici.
Non, mais je sais que. Je ne sais pas si tu c'est vraiment dans l'ordre. Je sais où il a joué, moi.
Alors, il y en a beaucoup encore, hein. Il y en a encore. Je peux vous dire, il y en a encore 5.
Ouah, là, j'en ai pas 5.
Ouais, j'en ai pas 5.
Enfin,
j'en ai...
Et surtout, c'est après le Magic qui t'intéresse.
Ouais, pas, ouais, c'est après le Magic et je vois pas du tout.
Ah, il bah, faut que tu essayes un truc. Tu vas pas perdre sur une question Vince Carter.
Ce serait l'histoire de ma vie, je te dis. Non, je vois pas du tout.
Attends, t'as une chance sur 30. Hein.
Super. Bah, sinon, sur 27, du coup.
Ouais. Bah, après, tu penses aux équipes, aux maillots qu'il a porté, peut-être.
Ouais, je me rappelle plus du tout. Après.
Celle-là, elle est dure. Hein. Celle-là, elle est dure.
Ah, je sais pas. Je vois pas.
Bah, tente.
La team franchise ?
Boston.
Non, c'est pas bon. Est-ce que tu l'as, Steve ? Si tu l'as, t'as gagné.
Alors, je sais qu'il a joué à Dallas, je sais qu'il a joué à Atlanta, mais je pense que c'est pas tout de suite après Orlando. Orlando, il y a une équipe qui...
Il finit à Atlanta, je crois.
Un petit passage moisi, quelque part.
Un petit passage moisi, quelque part.
J'ai peut-être une idée.
Vince Carter, Orlando, et ensuite... Conférence Est ou Conférence
Ouest ? Alors,
je vais
te dire Conférence Ouest.
Donc il a plus d'indications que moi, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Mais je l'ai pas. Conférence Ouest...
Alors, Arnaud, t'aurais dit quoi si tu as la bonne réponse, je te réintègre au jeu.
J'aurais tenté Phoenix.
Oui, c'est bon, vas-y, je te réintègre au jeu.
Avec ton ordi, non ?
Alors,
non, honnêtement, non.
Vas-y, fais-moi les 4 dernières. Et ouais, vous êtes tous à égalité. Si t'as les 4 dernières, vous avez tous 10 points.
Non, j'aurais pas les 4 dernières. Alors, attends, Orlando, Phoenix...
Il termine par les hauts, c'est sûr.
Oui. Après la suivante. Pas facile.
Un petit passage à Memphis.
Excellent.
Il est en train de nous mettre une bonne banane à Marcel Cerdan avec la connexion. Avec le Wifi, il est en train de nous mettre une bonne banane en
Arnaud Valadon. Non, après, j'ai pas.
Après, t'as pas.
Il a terminé à Atlanta.
Oui, mais il y en a une autre.
Non, j'ai pas.
Qui l'a, celle d'avant Atlanta ?
Moi, je l'ai. C'est Sacramento.
Et c'est bon, t'as gagné le quiz, Fred, je te le donne. Allez, c'est pour
ça. J'ai l'impression qu'il y a une belle banane aussi sur le Sacramento, je vais pas vous mentir.
Il y a une belle banane.
Qui t'a soufflé ? C'est Samantha qui t'a soufflé ?
On m'a soufflé, je ne cite pas. Bon,
c'est pas bien ce que vous faites en régie. Bravo, Fred, tu as gagné le quiz en trichant. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.